Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le 17 mai étaient fêtés les 10 ans de la canonisation de Maryam Barwardi. C'est la première sainte palestinienne du Carmel. Elle est née en 1846 en Galilée, sœur Maryam de Jésus crucifié, c'est son nom de religieuse, a vécu une vie itinérante en Alexandrie, Jérusalem, Beyrouth, Marseille, Pau, Mangalore en Inde et enfin Bethléem où elle est morte à l'âge de 32 ans. Cette sainte possédait des multiples charismes, elle a connu des extases et des manifestations extraordinaires, mais cela n'en fait pas pour autant une sainte inimitable, nous allons le voir ce matin. Pour nous parler de sœur Maryam de Jésus crucifié, nous sommes avec frère Benoît-Marie Carme au couvent de Toulouse. Bonjour frère Benoît-Marie.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous êtes entré en contact, si je puis dire, avec cette petite sœur Maryam?
Sa simplicité. Avec elle, des choses complexes sont permises par un cœur simple ou deviennent fiables. On a un a priori favorable devant ces effets spéciaux incroyables parce qu'on a une âme simple qui ne peut pas truquer, qui ne joue pas. Voilà, c'est ce qui nous la rend tout à fait aimable et fiable.
Oui, c'est ça. Alors, nous allons parcourir avec vous, frère Benoît-Marie, la vie de Maryam à travers les lieux qu'elle a visités. Ça va nous permettre évidemment de plonger dans sa spiritualité. On va commencer par sa naissance à Bethléem. Donc, elle est née le 5 juin 1846. Une naissance déjà miraculeuse, on peut le dire.
Oui, complètement miraculeuse parce que ses parents, Georges et Maryam Barwardi, ont déjà eu 12 garçons morts en bas âge. Et ce sont des gens extrêmement fervents. Et qui décide de partir à Bethléem pour demander à la Vierge Marie une fille, et une fille qui survivra.
Et c'est le cas.
Maryam naît, survit, et puis d'ailleurs 2 ans plus tard naîtra un petit boulos, un petit Paul, avec lequel malheureusement Maryam restera peu en contact.
Et oui, parce qu'elle va perdre ses parents assez jeune.
Les parents vont mourir assez vite, et puis Maryam va rester chez un oncle paternel, eh bien, à Abéline, dans cette région aux confins de la Galilée et du Liban Nord, alors que Boulos va être envoyé ailleurs chez une tante maternelle.
Et alors, Maryam va partir avec donc, la famille de cet oncle en Égypte. Et là, elle va quand même bénéficier de 3 guérisons miraculeuses et elle se laisse guider par la Vierge Marie. J'aimerais bien que vous nous racontiez ça, frère.
Oui, alors, c'est à la fois des grandes grâces et aussi la source de sa fuite en France ultérieurement. Maryam va être atteinte de cécité et puis 40 jours plus tard, en invoquant Marie, elle recouvre la vue. Et puis autre Fioretti de la vie de Maryam, qui en a plein, elle est sur une terrasse très élevée, elle se casse la figure, elle tombe par terre, ça fait l'équivalent de 2 étages, elle se casse tous les os, et puis elle invoque Marie, et ses os se ressoudent, voilà. Et puis elle a un rapport avec la nature qui fait penser à l'harmonie originelle.
Ah oui.
Oui, par exemple, toute gamine, il y a un serpent venimeux qui passe à côté d'elle, elle le prend à pleine main et lui fait boire son lait. Voilà, donc on est vraiment, Maryam nous fait plonger dans le merveilleux. Si vous voulez, on n'est pas tous appelés à connaître, loin s'en faut, ce merveilleux, mais ça nous dit quelque chose du merveilleux de la relation avec le Seigneur. Voilà, elle est là pour ça, pour nous dire...
Elle est un témoin.
Elle est un témoin de cette joie, de ce merveilleux qui vient de la rencontre avec le Seigneur.
Et de cette proximité, justement.
Exactement,
avec le Seigneur.
Voilà.
Ouais. Et puis, elle a déjà, elle est quand même jeune, quand elle part à Alexandrie, elle a quand même une foi qui est déjà très forte, parce qu'elle elle se lie d'amitié avec un serviteur qui est musulman, et elle ne veut surtout pas renier sa foi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, il y a un événement un peu compliqué, c'est que son oncle, qui l'avait en bonne estime, décide de la marier à ses 12 ans. Et elle refuse. Donc elle fugue. Et elle va chercher refuge chez un ancien domestique de son oncle, qui est musulman, et qui lui demande de se convertir. Enfin, qui lui demande. qui lui enjoint de se convertir. Et elle répond avec aplomb et une grande foi. Elle dit, voilà, moi je suis fille de l'Église catholique et romaine. J'espère avec la grâce de Dieu y persévérer jusqu'à ma mort dans cette religion qui est la seule vraie. Et devant cela, eh bien, le musulman dégaine un cimetière et l'égorge. Et c'est aussi un événement marquant. Alors, bienvenue hein, dans le merveilleux biblique. On dit que jamais chez cette petite sainte, le surnaturel aura été aussi naturel. Mais il y a une femme en bleu qui lui recoue le cou, qui la prend chez elle pendant un mois et qui lui donne les grandes étapes de sa vie. Voilà. Et donc, elle est très vite plongée un peu au ciel, tout en étant ici-bas. C'est assez, assez mystérieux. Hein.
Oui. Et donc, cette femme en bleu qui recoue sa cicatrice, ça pourrait être la Vierge Marie.
Ah oui, elle le comprendra a posteriori, parce que cette femme lui donne les grandes étapes de sa vie. Notamment, elle lui dit qu'elle sera fille de Saint-Joseph. Et effectivement, Mariam rentrera chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Elle en sortira. Elle sera fille de Sainte-Thérèse, lui dit la dame en bleu. Elle prendra l'habit du Carmel, lui dit-elle encore, dans un couvent. Effectivement, elle le prendra à Pau. Et puis, elle fera profession dans un autre, effectivement, à Mangalore, en Inde. Et enfin, elle mourra dans un troisième, effectivement, dans la fondation de Bethléem. Et puis, elle lui enjoint de faire preuve de beaucoup d'abandon, beaucoup d'humilité. Et elle lui dit, ton livre n'est pas encore achevé. Donc, elle lui prédit qu'elle survivra à cette épreuve. Et elle lui dit une autre chose un peu radicale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des grands bienfaits, des choses très agréables qui lui sont données, et puis des grands drames.
Des grandes souffrances.
Des grandes souffrances. Et elle lui dit, bah, tu ne reverras jamais plus ta famille. Voilà.
Ah oui, c'est ça.
Et là, elle n'est pas très âgée. Hein.
Oui, c'est dur. Hein. Oui. Deuxième étape de la vie de Sœur Mariam de Jésus crucifié, c'est Marseille, où elle trouve un emploi de servante dans une famille libanaise. Et elle répond enfin à son désir de devenir religieuse. Donc, c'est là que vous nous avez parlé, Frère Benoît-Marie, de cette dévotion à Saint-Joseph, puisqu'elle devient sœur apostolique de Saint-Joseph de l'Apparition. Et c'est là qu'elle reçoit les stigmates du Christ, bien qu'elle ne les considère pas comme telles. J'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit.
Oui. Tout à fait. Alors, d'abord, elle quitte l'Égypte et le pays de Jésus parce que... elle veut plus retourner dans sa famille. Mmh. Donc, elle arrive effectivement dans la famille Naguère à Marseille. Elle rentre au bout de 2 ans de bons et loyaux services chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, qui ont leur maison mère, je crois, à Gaillac, hein, encore maintenant, mais qui sont plus très nombreuses. Et effectivement, très rapidement, elle commence à être affectée de ce qu'elle appelle des malpropretés ou sa maladie. Et si vous voulez, comme c'est une âme très simple, elle est incapable de penser qu'elle est gratifiée de faveurs aussi élevées. Donc, et puis, elle en a que des effets négatifs, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas suivre la règle du Carmel, les offices. Et c'est sa grande souffrance. Elle est rentrée au Carmel, elle a fui ses emplois domestiques, si je puis dire, pour vivre l'union à Jésus dans l'obéissance assez minutieuse aux exigences de la règle du Carmel. Et là, elle ne peut pas. Et donc, elle en est très malheureuse. Et puis, ça porte préjudice à son entrée dans cette communauté, parce que les supérieurs qui sont comme vous et moi, même si elles ont une grâce propre, se disent comme tout le monde aurait fait. Mais d'où ça vient, ce truc? D'où ça vient?
Ouais, c'est très mystérieux.
Et ils finiront d'ailleurs par la renvoyer.
Oui, donc elle se fait exclure finalement de ce couvent de Saint-Joseph de l'Apparition. Mais elle est accueillie au Carmel de Pau, donc entre 1867 et 1870. Quelle sœur est-elle, cette petite sœur Mariam?
Eh bien, cette petite sœur est une sœur d'abord qui est très reconnaissante d'avoir été accueillie, qui comprend que cette femme en bleu qu'il avait prise chez elle et qu'il avait recousu le cou, eh bien, est une femme assez extraordinaire, puisque, effectivement, comme elle lui avait promis, après être devenue fille de Saint-Joseph, elle est devenue fille de Sainte-Thérèse.
Oui.
Donc, elle commence à comprendre que ça peut être la Vierge Marie. Voilà. Et donc, comment elle est-elle? Donc, pleine de reconnaissance. Elle est très vive, très sensible, d'après tous les ouvrages que l'on peut lire sur elle. Très volontaire, un tantinet obstiné, mais au moindre ordre de ses supérieurs, elle s'arrête. Voilà. Et elle a, au fond, deux des qualités essentielles pour être prise dans la vie religieuse, si je puis dire. Elle est obéissante, L'obéissance religieuse, c'est aussi une enseignabilité, c'est-à-dire qu'elle se laisse enseigner. C'est pas simplement obéir à des ordres, c'est plus profond.
Oui, il y a une relation de confiance quand même.
Voilà. Hein, voilà, et puis c'est vouloir grandir. Et puis le deuxième point, c'est qu'elle a un excellent jugement. Et Thérèse d'Avila dit, voilà, si vous avez une jeune religieuse qui a des difficultés, mais qui obéit, qui est enseignable, et qui a un bon jugement, donc un bon rapport à la réalité, eh bien, prenez-la. Et donc, elle va être favorablement accueillie par ce couvent, qui est un couvent en pleine forme. Il y a 20 carmélites, une pyramide des âges très, très, très bien répartie, avec tous les âges. Et puis, elle se lie d'amitié avec l'évêque, Monseigneur Lacroix. Il y a d'excellents aumôniers et pères spirituels qui ont probablement les trois qualités qu'exige Thérèse d'Avila, c'est-à-dire un bon jugement, l'expérience et la science, et qui vraiment l'aident et qui comprennent qu'elle est, que ce n'est pas de la maladie psychique, qu'elle est vraiment la bénéficiaire de grandes grâces mystiques.
Oui, qu'elle est choisie par le Seigneur. Voilà, pour, et puis, elle a, pendant ces 3 ans au Carmel de Pau, elle est particulièrement persécutée par le démon. Oui. Qu'est-ce qui lui fait faire et comment elle réagit ?
Alors, le démon vraiment agit, et c'est un peu rassurant d'une certaine manière, parce que, au vu et au su de toutes les sœurs. C'est-à-dire que Mariam est au réfectoire, et tout d'un coup, alors qu'elle a les mains loin de sa gamelle, de son assiette, l'assiette est projetée au milieu de la pièce. Sa voisine voit des verres et des épingles dans sa nourriture. Quand elle va dans les escaliers, elle est mystérieusement poussée. Parce que le démon veut sa peau. Voilà, et donc elle est soumise. On voit que sa voix n'est pas ordinaire, que ça n'est pas simplement par des épreuves, je dirais, extérieures, mais c'est vraiment le malin qui veut sa peau et qui, devant ses grandes grâces, eh bien, redouble d'activité. Et au-delà, le démon surtout la conduit à une chose qu'on peut tous connaître. Et c'est au découragement.
Le désespoir.
Vraiment, voilà, le désespoir. C'est vraiment là où il veut toujours nous amener. Et elle va être confrontée, un peu pour dire ensuite à la postérité qu'on peut y résister, eh bien, elle va être confrontée à ce grand découragement au point de vouloir se suicider.
Oui, c'est ça. Et ça ne se voit pas, parce que autant les attaques du démon, comme vous disiez, Frère Bonhomme-Marie, avec l'assiette qui vole et le verre ou les épingles dans la nourriture, là, le découragement, c'est vraiment intérieur.
C'est intérieur, mais elle est transparente à l'égard de ses supérieurs. C'est aussi ça qui la sauve. Et donc, tout le monde sait ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est assez cohérent avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que si on est affecté de tels phénomènes positifs et négatifs, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est tout à fait normal, en tout cas dans la spiritualité carmélitaine, qu'on puisse imaginer que le grappin se déchaîne de manière assez forte et visible.
Et dans les écrits sur la petite sœur Mariam, il y a ce dialogue entre le diable et cette petite sœur. Et à chaque fois, elle tient bon. Elle veut vraiment à chaque fois rester fidèle à Dieu.
C'est ça. Vous me demandiez quelles étaient ses armes finalement. L'humilité et puis l'obéissance à la règle et la transparence à l'égard de ses supérieurs. En fait, dès qu'elle a des tourments importants, elle met en œuvre exactement ce que les pères du désert, ces premiers moines du début du christianisme, préconisaient. C'est-à-dire qu'ils préconisaient, voilà, quand un frère, et notamment un jeune frère, est assailli de tourments, quelle que soit leur origine, c'est difficile de distinguer et de démêler ce qui est naturel de ce qui est d'origine démoniaque, eh bien, qu'il aille s'en ouvrir à un ancien. Et expérimentalement, ils se sont rendus compte que le démon n'aimant pas les lumières, eh bien les tourments disparaissaient. Voilà. Et elle s'ouvre de manière très simple à ses supérieurs, et donc ça chasse le démon, et elle retrouve un peu de paix.
Et elle ne se sent pas supérieure pour autant, justement.
Absolument pas, non, elle se sent toujours hyper humble, et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, à un moment donné, les sœurs lui disent, je ne sais pas si c'est en récréation ou pas, mais en tout cas, un moment où on peut parler au Carmel, mais ma sœur, avec tout ce que vous avez comme faveur, vous craignez pas d'être orgueilleuse? Et elle dit, moi orgueilleuse, je suis un vrai tas de fumier. Donc, et c'est tellement spontané que ça n'est pas construit.
Oui.
C'est une âme simple, justement. Voilà.
Oui. Tout est là. Et puis, dans ses qualités, donc, l'obéissance et l'humilité, elle a aussi cette troisième force qui est la charité.
La charité, effectivement, elle est extrêmement affable. Donc, elle a beau souffrir, elle a beau parfois être obligée de manquer la règle parce qu'elle est prise par la passion, eh bien, elle est toujours aussi sympa avec les autres sœurs. C'est la mise en œuvre de l'épître de Saint-Jacques. Hein. Si vous n'aimez pas votre frère, c'est que vous n'aimez pas le bon Dieu. Là, elle aime son frère, alors que dans des moments où elle pourrait ne pas les aimer parce qu'elle n'est pas bien, et ben, c'est le signe qu'elle aime beaucoup le bon Dieu et qu'elle est vraiment, que ses faveurs sont vraiment authentiques.
Et c'est au Carmel de Pau que cette sainte Marianne a des visions d'Élie, de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, saint Joseph, la Vierge Marie.
Oui, chez Marianne, il y a tous les effets spéciaux.
Ouais, c'est ça.
On n'y fait même plus attention. C'est devenu vraiment naturel. Et d'ailleurs, c'est un très bon critère quand on... Elle n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment contrainte et forcée. Donc, elle en est même elle-même surprise. Il y a une espèce de... Voilà,
Parce qu'elle ne se sent pas digne, en fait.
Elle ne se sent pas digne. Elle n'ose pas penser que ça puisse lui arriver. C'est simplement à la fin de sa vie qu'elle comprendra que c'est malpropreté, que tout ça, c'est vraiment l'effet du ciel, de faveur très élevée. En fait, finalement... quand elle aura été rendue tellement humble qu'elle ne pourra jamais en faire un mauvais usage pour elle et pour les autres. Donc il y a toute une pédagogie aussi divine. Et elle va, mais il y a un tel risque de s'enorgueillir qu'elle va vraiment passer encore par des épreuves très importantes.
Alors on en parlera justement après la pause, puisqu'elle va être, envoyée en Inde.
Oui.
Et là, effectivement, grande épreuve. Pour terminer sur cette première partie, puisque vous avez parlé de l'obéissance et de l'observance à la règle, vous dites que dès qu'elle est reprise, puisqu'elle était un petit peu butée, pas butée, mais vous disiez très...
très obstinée.
Très obstinée. Elle s'arrête dès que la prieure lui demande, et elle dit, quand nous demandons une permission, la première parole de la prieure, c'est Dieu. Si nous faisons une observation, cette seconde parole,
c'est
nous-mêmes, et si nous insistons, c'est le démon.
Et ça, c'est terrible, parce que depuis que je l'ai travaillé, je fais très attention à ce que je demande à mon prieure, et à la manière. C'est-à-dire que je me dis toujours, si j'insiste dans ma demande, ça devient moi, puis le démon.
C'est ça.
Donc,
et ça peut être valable pour chacun de nous, en fait.
Ben oui, puisque les couples, vous avez une obéissance conjugale. Et nous, c'est un peu plus vertical, mais la réalité est la même. Hein. C'est la même réalité du baptême qu'on est appelé à vivre de manière différente. Mais on est appelé à obéir à l'Église. On est appelé à obéir, oui, à son mari. D'une certaine manière, les choses étant bien proportionnées à ses enfants aussi. Donc, vous aussi.
À son mari ou à sa femme, selon qu'on est homme ou femme. Vous nous avez présenté, frère Benoît-Marie, les premières étapes de la vie de Sainte Mariam de Jésus crucifié, donc d'abord en Palestine, au Liban, à Marseille, à Pau. Je vous propose de marquer une pause et puis vous nous direz juste après comment elle grandit, toujours en sainteté, dans l'obéissance et l'humilité et la charité. Donc en Inde, nous l'avons dit, et puis à nouveau à Pau, elle revient. Nous écoutons Esprit Saint, inspirez-moi, interprété par le Petit Cœur Mariam, à partir d'une prière justement de Sainte Mariam de Jésus et mise en musique par Guilain Planty.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Cette émission Vivante Église est consacrée à Sainte Mariam de Jésus crucifié. Et nous sommes avec le frère Benoît-Marie Carme au couvent de Toulouse. Après ces 3 années au Carmel de Pau, au cours desquelles Mariam s'applique à l'obéissance, l'humilité et la charité, elle est envoyée en Inde avec quelques sœurs pour implanter un Carmel féminin. Sœur Mariam y restera 2 ans, donc de 1870 à 1872. C'est la période, vous nous le disiez juste avant cette pause, la plus douloureuse de sa vie. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, parce que elle va, si vous voulez, passer d'un statut de privilégié et de bien-aimé de la communauté à celui
de semeuse de troubles,
voilà,
un peu.
Oui, c'est ça, de victime un petit peu, ou de. Elle va, si vous voulez, recevoir toute la haine de la communauté, parce qu'elle part en Inde non seulement avec des sœurs, mais à l'instigation de 2 carmes. Alors, c'est pas à notre honneur. Donc le père Marie-Ephrem et le père Lazare. Le premier devient évêque du lieu et le second devient, reste père spirituel de la petite Mariam. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle fait profession le 21 novembre 1870, 71, je ne sais plus.
72, non, il me semble.
Non, 70. 70,
oui.
Ce qui est tout à fait légitime, elle n'a plus à rendre compte ni à sa maîtresse novice, puisqu'elle n'est plus jeune sœur, ni à l'évêque, qui est le supérieur ecclésiastique, ni à sa prieure, qui prennent ombrage. Parce que Mariam leur dit, elle a beaucoup de jugement, elle sait ça. Et elle dit, moi maintenant, je ne confie mon âme qu'à mon père spirituel, au père Lazare.
Donc il y a une forme de jalousie ?
Il y a une jalousie, probablement. En tout cas... ce qui était considéré comme des états mystiques par ces 3 personnes deviennent au minimum des problèmes psychologiques, sinon des attaques du démon. Ils vont écrire, je ne sais pas qui exactement, mais une circulaire aux 108 Carmels de France en disant que cette sœur dont on connaissait à connaître la réputation, en fait, est une truqueuse. Ils vont, la communauté va s'y mettre. Va l'empêcher parfois de manger, va lui demander de rentrer au cœur après toutes les sœurs, va la priver de communion parfois, et puis on va l'exorciser contre son gré. Et puis surtout, le sommet quand même de l'abus, c'est que ses supérieurs, donc tous ceux que j'ai cités, vont lui dire que sa profession solennelle est invalide.
Oui, c'est crucifiant.
Ah oui, mais il y a de quoi vraiment devenir fou. Et elle va, évidemment, elle va continuer à être affable avec tous, mais elle est très sensible, et elle va en souffrir, mais on le saurait à moins. Et elle va être à nouveau tentée par le suicide, en tout cas par un très grand découragement. Voilà.
Donc, et qu'est-ce qui l'a fait tenir, justement ?
Eh bien, c'est l'humilité, et puis une union à Jésus de chaque instant. Voilà. Mais c'est vraiment là... Si on caractérise l'étape de la vie spirituelle d'après les critères du Carmel, c'est vraiment la nuit de l'esprit. Ce temps ultime de préparation de l'âme au mariage mystique, c'est-à-dire à la communion pleine, non seulement de la volonté, des facultés intérieures, mais de toute la personne aussi, des facultés extérieures. Et ben voilà, donc là, elle est purifiée, humiliée jusqu'au dernier degré.
Et à tel point que finalement, elle est renvoyée de ce couvent.
Voilà, elle est renvoyée. Et elle repart à Pau.
Elle repart à Pau, donc ça c'est le 5 septembre 1872. Comment ça se passe à Pau ? À Pau, vous nous l'aviez dit, elle avait été bien accueillie et comprise. Oui. Est-ce que finalement elle retrouve ce même climat ?
Oui, parce qu'en fait, alors la prieure du Carmel de Pau, Monseigneur Lacroix, le supérieur ecclésiastique du Carmel, les 2 pères spirituels ou aumôniers du Carmel, confesseurs ou aumôniers, donc les pères Saint-Guilly et Manaudas, ont été informés. Ils ont reçu la circulaire. Même s'il n'y avait pas Internet, ils ont reçu des courriers ils sont mis au courant. Mais c'est des gens, en fait, finalement, c'est le pendant des autres, libres, qui ont du jugement, et prudents, et courageux, et qui disent, non, mais nous, on va attendre de vérifier sur pièce.
Ah oui, c'est ça.
Et donc, ils lui réservent un bon accueil, parce qu'ils se disent, il n'y a pas de raison que cette âme simple... soit transformée en une âme de truqueuse. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et donc, ils vont l'accueillir bien Et elle va se enfin revivre. Et il y a tout des tas de prières où elle dit, voilà, mon cœur à nouveau se dilate, mes os étaient disloqués, j'ai été comme un petit oiseau attaqué par un milan et maintenant je vole. Enfin, ça rappelle d'ailleurs la petite Thérèse. Oui. Voilà. Et donc, elle va dire, ce sont mes vacances.
Et est-ce qu'elle va être obligée de refaire profession puisque sa profession en Inde avait été invalidée ?
Ben, elle était valide, je pense, mais oui. Reconnue à tort oui. Par abus spirituel comme invalide. Alors, oui, on va lui refaire faire sa profession parce qu'elle le demande et en fait par un grand souci psychologique. Là, c'est quand même pas mal vu de la part de ses supérieurs. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, sa profession est valide. Mais elle a vraiment tellement le sentiment que c'est invalide qu'elle ne pourra pas progresser. Oui. Elle va se fixer dessus. Donc, il lui dit, bah, écoute, à l'anniversaire de ta profession, d'il y a 2 ans, eh bien, refais profession. Ou il y a 1 an, d'ailleurs. Mm-hmm. Refais profession. Et donc, elle va refaire profession le même jour, le 21 novembre 1872, je crois.
Mm-hmm. Elle a quand même mûri, puisque là, elle a quel âge ? Elle a 25 ans,
voilà, exactement,
à peu près.
Voilà, ouais. Exactement.
Qu'est-ce que ça change par rapport à son précédent séjour au Carmel de Pau ?
Eh bien, ce que ça change, c'est qu'elle a enfin compris l'origine surnaturelle de tous les phénomènes qui l'affectaient. C'est-à-dire qu'elle a enfin compris que la dame en bleu, c'était bien la Vierge Marie, que ses mauvaises marques, ses malpropretés, eh bien oui, c'était l'effet d'une grâce signalée. Elle a enfin, si vous voulez, consenti pleinement à sa vocation qui est singulière. Et donc, elle n'a plus de fausse humilité. Elle n'en avait pas beaucoup, mais elle en avait toujours un peu. Il aura fallu cette épreuve monstrueuse pour qu'elle soit vraiment totalement humble. Et donc, vous savez, l'humilité, c'est la vérité, dit Thérèse d'Avila. Donc là, elle est pleinement humble, donc pleinement dans la vérité. Si Dieu a permis ça, eh ben, c'est parce qu'il le voulait. Moi, je ne suis rien. D'ailleurs, elle s'appelle le petit rien de Jésus.
Le petit rien de Jésus. Le lundi de Pentecôte 1873, Sainte Mariam fait l'offrande totale de sa volonté pour s'aider à accomplir complètement sa consécration à Dieu.
Oui. Alors ça, c'est des prières qu'on retrouve chez certains mystiques. Thérèse d'Avila avait fait un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une étape décisive, une grâce décisive. C'est vraiment l'entrée pleine et entière dans la sainteté. Hein, c'est juste avant le mariage spirituel, où, si vous voulez, jusqu'à présent, Mariam était unie de volonté avec le Seigneur, mais il y avait encore, dans la périphérie de son être, des choses qui n'étaient pas en harmonie, qui n'étaient pas complètement unifiées. Et là, ces grâces-là le font passer, y compris la sensibilité, y compris les premiers mouvements de la sensibilité, eh bien, spontanément vers le Seigneur. Voilà, donc il y a une unification totale de l'être, et puis une communion totale de toute la personne avec le Seigneur. Et voilà, on peut dire que c'est une étape décisive qui est nouée, et donc elle désire à nouveau complètement se donner au Seigneur. Comme d'autres mystiques l'ont fait, comme peut-être la petite Thérèse avec l'acte d'offrande à la miséricorde. Thérèse d'Avila, elle, ça sera le vœu du plus parfait, peut-être. Le Saint Curé d'Ars a eu un texte magnifique où il dit, voilà, je voudrais que chacun des battements de mon cœur soit l'occasion d'une offrande de ma volonté. Voilà, c'est de cet ordre-là.
Et c'est vrai que dans sa vie, on trouve des liens entre le curé d'Ars
et la petite Thérèse aussi.
Et la petite Thérèse, voilà, oui, bien sûr.
Voilà. Parce que j'avais mis que j'avais souligné, parce que j'en avais parlé de cette personne magnifique, Mariam, au Carmélite d'Ars.
Ah.
Donc voilà, il y avait le Saint-Curé et la petite Thérèse. Et effectivement, vous voyez, par exemple, la petite Thérèse évoque des images de fleurs au début du manuscrit A, en disant qu'elle est une petite violette, une petite pâquerette du bon Dieu. Et Mariam va réutiliser la symbolique de la fleur. Thérèse disait petite fleur, signe de l'humilité. Mmh. Et Mariam, elle va parler d'une couronne de fleurs, plusieurs couronnes concentriques, dont le cœur est la petite violette de l'humilité.
Ah,
donc il y a des correspondances, alors qu'elle ne se connaissait pas, il n'y avait pas Internet. Voilà, et puis justement, dans son acte d'offrande à la volonté de Dieu, elle va évoquer la même image du petit oiseau. hein, qui a été attaquée par le Milan. Et puis Thérèse a des magnifiques paroles où elle dit qu'elle n'est pas un aigle, mais qu'elle en a, elle a le désir de l'aigle.
Oui.
Elle n'est qu'un petit oiseau, mais qui regarde de manière têtue à travers les nuages, le soleil, et qui compte sur l'ascenseur du bon Dieu pour arriver au sommet de la sainteté. Il y a des correspondances de cet ordre-là.
Oui, il y a des correspondances. Alors, elle est surnommée la petite arabe à Pau.
Oui.
Elle dialogue, on l'a dit, hein, avec la grande et la petite Thérèse, la Vierge Marie, Jésus. Et Jésus lui fait part de son amour pour la France.
Oui, voilà. Alors, c'est marrant parce que Jésus parle de son amour pour la France souvent à des personnalités étrangères. On peut penser à une autre personnalité, à Marcel Van.
Eh oui, bien sûr.
Voilà. Et effectivement, Jésus lui demande, hein, au cours de vision, au cours de dialogue intérieur, non seulement de s'offrir pour l'Église, mais de s'offrir et de souffrir pour la France, qui est vraiment la fille aînée de l'Église et qui est, lui dit Jésus, le petit rosier de la Vierge. Et donc, effectivement, Mariam va entrer en relation avec la famille royale de Bourbon-Parme, avec Mac Mahon, président de la République, je crois, de 73-76, et puis en leur disant, voilà, en les exaltant à entamer dans leur domaine politique, eh bien, une conversion de la France. Et ça, elle le subit, parce que elle n'avait rien demandé au Seigneur, elle n'avait pas demandé au Seigneur d'avoir cette mission qui est toujours un peu délicate. Et où se mêlent spiritualité et vie politique.
Et de fait, est-ce qu'elle est entendue ?
Je pense pas trop.
Mais au moins, elle dit.
Elle dit
les choses.
Elle dit, voilà, comme dit Bernadette à l'abbé Peyramale, hein, je suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment cette mission. Il y a aussi, vous en avez parlé, frère Benoît-Marie, la place de l'Esprit Saint, mais de la Vierge Marie, mais il y a aussi la place de l'Esprit Saint,
Oui.
dans sa vie. Dans
oui,
sa vie
à l'époque, au 19e, on parle de l'Esprit Saint comme le divin méconnu. Le divin méconnu. Et elle va avoir une prière assez fameuse, dans laquelle elle évoque la personnalité l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Hein. Et elle va vraiment inviter son entourage à se mettre sous la motion de l'Esprit-Saint, à vraiment considérer que l'Esprit-Saint est une personne divine à part entière qu'on n'arrivait pas à appréhender, on a du mal à appréhender. Et on peut dire que c'est vraiment les prémices du Concile Vatican II.
Ah oui.
Oui, oui. C'est-à-dire la très forte part laissée à l'Esprit-Saint dans la vie spirituelle.
Oui.
Donc elle est précurseur là.
Elle est précurseur. Dernière étape de la vie de sœur Mariam de Jésus crucifié à Bethléem, oui. Puisqu'elle quitte le Carmel de Pau. Et donc elle va fonder avec quelques sœurs le premier Carmel au pays de Jésus. Donc là c'est entre 1875 et 1878 puisque ce sera l'année de sa mort.
Oui. Oui, tout à fait. Et là c'est encore une page de sa vie qui est incroyable. Elle arrive avec quelques sœurs, avec une demoiselle hein, qui est une donatrice. Et puis, il faut acheter un lieu pour le couvent, pour construire le couvent. C'est un tissu, un paquet de nœuds. Il y a 30 propriétaires sur la zone qu'elles veulent. Voilà. Elle arrive à dépatouiller tout ça. Alors, c'est la seule à parler de l'arabe hein, dans ce groupe. Et puis, elle dit, c'est ici. Et on commence les travaux là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus lui donne les plans du Carmel. Et c'est sur ces plans reçus du ciel que
le Carmel est construit.
Voilà. Mmh. Et là, elle va s'occuper des ouvriers, la trentaine d'ouvriers du chantier, parce qu'elle parle arabe. Elle va être très, très délicate avec leur famille. Elle va vraiment prendre soin d'eux comme une mère prend soin de ses enfants. Voilà, jusqu'à ce que ses travaux épuisants aient raison de sa santé. Voilà.
Mmh.
Et elle va connaître, quand même, une étape importante, parce qu'elle va connaître la grâce insigne et ultime du mariage spirituel. Voilà. C'est-à-dire de l'union complète de toute la personne avec le Seigneur. Et union qui est signifiée à la personne même, à Mariam, par une apparition. Et Jésus lui remet un anneau au doigt en lui disant, voilà, maintenant tu es mon épouse.
Comme Sainte Thérèse d'Avila.
Exactement.
Oui, oui.
Avec des variantes, parce que Mariam, évidemment, c'est un peu extraordinaire. Elle va recevoir une bague que ses sœurs ne voient pas, qu'elle voit, alors qu'elle s'amuse à enlever et à mettre,
oui,
comme ça. Une fiancée ou une jeune mariée. C'est
oui.
Très drôle.
Oui. Et donc, cette grâce du mariage mystique,
oui.
C'est finalement la dernière grâce qu'elle reçoit avant de mourir.
Oui,
Oui.
Exactement, c'est le sommet.
C'est le sommet.
Et puis elle meurt accidentellement. Je crois qu'elle, je ne sais plus exactement, mais elle a un accident sur le chantier et elle en meurt. Et là, il y a un dernier Fioretti, c'est-à-dire qu'elle a les bras en croix. Et alors, on la met dans son cercueil, mais on ne peut pas fermer le cercueil.
Parce que ses bras restent en croix.
Voilà. Et alors, la prieure dit, voilà, toute sa vie, la sœur Mariam a obéi au doigt et à l'œil. Eh bien, maintenant, ma sœur, je vous intime l'ordre de replier vos bras, parce qu'ils étaient complètement coincés.
Eh oui,
et à ce moment-là, ils s'assouplissent. La prieure peut recroiser les bras sur sa poitrine. Et on termine en beauté une vie merveilleuse.
Oui.
Et surtout une vie merveilleuse parce que sainte.
Et oui, c'est ça. En conclusion, frère Benoît-Marie, qu'est-ce que vous diriez de cette petite... Enfin, on dit petite sainte parce qu'elle était, petite dans l'humidité et puis par son âge aussi. Comment l'exemple de sa vie peut nous inspirer dans notre quotidien?
Moi, je trouve qu'elle a reçu la grâce, la transverbération, je ne développerai pas, qui est la grâce des fondateurs de spiritualité ou d'ordre. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle a fondé, elle? Et je pense qu'elle a fondé une école de spiritualité, si je puis dire, celle de ceux qui ont été abusés par l'Église et qui sont restés fidèles jusqu'au bout, qui ont pâti, que l'Église doit secourir, mais qui ne se sont pas cantonnés dans un rôle de victime, qui ont dû faire, je pense, un énorme travail, la grâce les a aidés, et elle est l'exemple que quand on a subi, y compris de la part de l'Église, des choses gravissimes, on peut s'en tirer et on peut être sainte et donc avoir réussi sa vie. Je trouve que c'est le message qu'elle peut nous laisser aujourd'hui. Et vous pouvez donc l'invoquer à cette intention.
Oui, merci beaucoup, frère Benoît-Marie. Vous nous avez présenté aujourd'hui la vie de sainte Mariam de Jésus crucifié, une sainte à invoquer, non seulement dans ces situations d'abus, mais aussi pour devenir humble et lui confier la France.
Exactement, qui en a besoin.
Et je signale que samedi 24 mai aura lieu la fête de la transverbération du cœur de sainte Mariam à l'ancien Carmel de Pau. Voilà, c'était votre émission Vivante Église. Merci de l'avoir suivie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.